avec Hélène Denis.
Soyez les bienvenus à cette émission du jeudi 8 janvier 2026. Mathieu Tessier est à la console. En forme, Mathieu?
Absolument.
Vous avez mis votre t-shirt, votre gaminet, où on peut lire « Bon matin, ça fait du sens ».
C'est pour vous et Monique.
J'entends la chanson de Marjo, provocant. Vous, c'est provocant. Oui, et puis on entend le rire ensoleillé de Monique Kirouac. Bonjour, Monique.
Bonjour, Hélène.
Alors, oui, Mathieu est un fanfaron.
Il aime bien nous taquiner. Hein?
Il aime bien nous taquiner. Et Yvan Deslauriers est là, mais lui, on l'entend pas rire.
Oui. Ah, ben, j'ai ri silencieusement.
Vous souriez. Souriez à la radio. Alors, oui, ben, oui. Bonne année, très chers collègues.
Merci. À vous aussi. Oui.
Très heureuse de vous retrouver. Monique, je vous souhaite une année bienveillante.
Merci beaucoup. Ça va être le sujet de ma chronique.
Oui.
Alors, ben oui, parce que, semble-t-il, selon un article qui a été diffusé, publié plutôt, dans la dernière édition de Québec Science, que la bienveillance, en fait, ben c'est bon pour notre santé mentale et surtout, ça participe à la cohésion sociale. Alors, il faut prendre ça au sérieux, c'est pas léger.
Non, je vois ça, la bienveillance a le dos large.
Ah oui, 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 vous allez voir, beaucoup de chercheurs, en tout cas, s'y ont intéressé. C'est toujours étonnant de voir hein, sur quoi travaillent nos chercheurs à travers la province, le Canada et le monde.
Fascinant, comme le dirait M. Tissère.
Oui.
Bonne et heureuse année à vous, cher Yvan. Et moi, je vous souhaite de la tranquillité d'esprit parce que 2025, ça n'a pas été facile pour vous. Ben, pour plusieurs personnes, mais entre autres pour vous.
Oui, ben on cherche toujours le bureau des plaintes pour ce qui est arrivé en 2025, mais on ne l'a pas trouvé. Alors, je pense qu'il faut vivre avec,
ouais.
De façon bienveillante.
Vous avez
C'est pour ça que je souhaitais, Hélène, de la féliciter.
Oh,
dans
j'ai
mes
aimé
vœux
ça.
Cette année.
Oui, Monique qui nous envoyait en plus une belle photo hein, prise par vous,
oui.
Votre chérie, j'imagine.
Oui, c'est ça, et c'est une photo qui a été prise, oui, dans notre nature.
Ah oui, juste cette photo-là faisait du bien, et Monique nous souhaitait de la santé et de la félicité. Quel beau mot, félicité.
Oui, j'ai trouvé que ça traduisait beaucoup de choses, hein, la paix, la quiétude.
Oui.
Alors voilà.
On vous félicite.
À tous nos auditeurs aussi.
Parfait.
Félicité et santé.
Yvan, donc, vous allez lire un texte de Kevin Breton qui a été publié sur le site de Radio-Canada.
Oui, le mois dernier. Et pendant le temps des fêtes, j'ai vu un documentaire sur la musique et l'effet de la musique sur les gens qui souffrent d'Alzheimer. Et là, c'est dans un peu le même thème, mais dans un contexte un peu différent. C'est le tennis de table. Est-ce que vous avez déjà joué au tennis de table?
Est-ce qu'on...
Ou au ping-pong?
Oui, le ping-pong. Hey, ça fait tellement longtemps.
Oui, moi aussi, mais j'adorais ça.
Oui? Vous
oui,
étiez bonne,
oui.
Monique?
Oui, j'aimais beaucoup ça, jouer au ping-pong, oui.
Mais pourquoi pas s'y remettre cette année? Ça pourrait être une de vos résolutions.
Oui, je trouve un cube de ping-pong à Magog ou quelque
pourquoi
part.
Pourquoi pas?
Quelque chose du genre. Alors, oui. Il semblerait, selon l'article qu'a écrit Kevin Breton, il semblerait que le tennis de table pourrait déjouer, selon son article, déjouer l'Alzheimer et le Parkinson. Alors, à tel point qu'il y a même des championnats mondiaux de tennis de table. Ça, oui, il y a des championnats mondiaux, c'est sûr, mais des championnats mondiaux pour les gens qui souffrent d'Alzheimer et de Parkinson. Ah,
ah oui.
Oui.
Ah ben, on va être à l'écoute, on va être tout oui. Et ben, Kevin Breton, c'est notre ancien collègue qu'on salue, qu'on aime toujours, mais il a quitté
oui,
Canal M, maintenant il est à Radio-Canada et il mène une très, très belle carrière. Alors Yvan, on va vous retrouver tantôt. Et puis il y aura également Dominique Tremblay à sa chronique parasport. Dominique, lui, va s'intéresser au ski de fond et au biathlon. Et puis il y aura aussi François Larochelle, ancien diplomate canadien, qui qui viendra nous expliquer les tenants et aboutissants de la crise qui sévit au Venezuela. Et on commence avec une chanson d'un duo franco-ontarien. Voici De Flore.
Canalem, j'irai là. Montréal. Météo astral du groupe De Flore.
À la une du Devoir de ce 8 janvier, avons-nous basculé dans le déni de la crise climatique? Les gouvernements du Québec et du Canada ont choisi de reculer sur leurs engagements de protection du climat et de l'environnement. C'est un texte d'Alexandre Shields. Après avoir promis de tout mettre en œuvre pour lutter contre les dérèglements climatiques et d'autres crises planétaires majeures, dont celle de la biodiversité, les gouvernements du Québec et du Canada ont choisi de reculer sur leurs engagements et de se donner le droit de contourner des lois environnementale. Le tabac à la rescousse des finances publiques du Québec. Depuis août dernier, les efforts du gouvernement du Québec pour réduire le déficit peuvent s'appuyer sur un allié insoupçonné, l'industrie du tabac. Au total, cette dernière doit lui verser 5 milliards de dollars au cours des prochaines années. Reste maintenant à savoir où ces fonds seront investis. États-Unis annexer le Groenland va plus loin que planter un drapeau. D'après divers experts, une tentative d'annexion n'a que très peu de chances d'aboutir. Et le gouvernement Trump revalorise la viande rouge. On en parle en page A3 du Devoir d'aujourd'hui. Le gouvernement Trump a marqué mercredi un nouveau jalon de sa politique « Make America Healthy Again » en dévoilant ses nouvelles recommandations alimentaires destinées aux Américains. Parmi ses principes phares, le guide accorde une importance accrue à la viande rouge et aux produits laitiers et s'attaque de manière frontale aux produits ultra transformés ou à forte teneur en sucre. Que penser de ces recommandations dont l'influence pourrait se faire sentir de l'autre côté de la frontière? Le Devoir fait le point avec Joël Aymon, président de l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec. Et c'est à lire dans Le Devoir sous la plume de Simon Gionnet. Également à la une du Journal de Montréal, on poursuit. Du plomb et du sulfate dans le fleuve. Ottawa accuse la plus importante usine de recyclage de batteries au plomb du pays d'avoir contaminé les eaux du Saint-Laurent et ce pendant des années. Basée à Sainte-Catherine, en Montérégie, l'usine de Terrapure recycle des tonnes de vieilles batteries au plomb acide utilisées dans des véhicules qui autrement pollueraient l'environnement. Or, les activités de l'entreprise ont créé des rejets de matières nocives entre 2020 et 2023, selon des accusations déposées par le fédéral en octobre. Environnement Canada accuse conjointement les dirigeants de l'usine et la ville de Sainte-Catherine dans cette affaire pour laquelle les coupables s'exposent à une amende minimale de 5 millions de dollars. Et puis, à la une de la presse plus, des bars jouent avec le feu. C'est un texte de Chloé Bourquin. Des bars montréalais utilisent encore des feux de Bengale attachés à des bouteilles d'alcool, une pratique similaire à celle ayant entraîné un incendie dramatique dans un établissement en Suisse. Ce type de bougie incandescente est pourtant interdit sur les territoires de Montréal. C'est à lire dans la presse plus d'aujourd'hui. Ce qui réconforte, c'est les derniers paragraphes. On écrit que depuis l'incendie de Chapin, en particulier le soir du 31 décembre 1979, les réglementations ont été resserrées, notamment sur les décorations à l'intérieur des bâtiments. Lors de ce funeste événement qui a fait 48 morts, un fêtard avait mis le feu avec son briquet aux guirlandes de sapins secs qui décoraient la salle communautaire. D'autres événements dans le monde ont aussi fait évoluer au fil des années les réglementations québécoises qui sont aujourd'hui très efficaces. Selon Nicolas Demeurtas, président de l'Association des techniciens en prévention incendie du Québec, le Québec est l'un des lieux les plus sécuritaires en Amérique du Nord sur cet aspect. On a très peu d'incendies rattachés à ce genre de dispositif pyrotechnique, souligne-t-il. Mais il faut ensuite que les établissements suivent et respectent les règles. Également, à la une de la presse d'aujourd'hui, « Chérie, ils ont réduit l'espace. Une nouvelle configuration des sièges crée des turbulences. » C'est à lire dans la section « Affaires » de la presse plus. « Trop, ce n'est comme pas assez. Réduire l'espace pour les jambes et installer des sièges non inclinables pour ajouter une rangée dans ces avions, c'est retourner contre WestJet. » Texte de Julien Arsenault. Et puis la chronique d'Yves Boisvert, « La fabrication d'un état d'urgence ». C'est cette histoire qui s'est passée à Minneapolis. On ne savait pas quand ni comment elle se produirait, mais la mort de cette femme mercredi à Minneapolis était hélas prévisible. Elle était en tout cas évitable. Depuis son entrée en fonction il y a un an, Donald Trump a fait augmenter le budget de la police de l'immigration de manière spectaculaire en incluant l'ajout de 10 000 nouveaux agents d'expulsion. L'agence fédérale appelée ICE est devenue la force policière numéro un au pays, 30 000 membres. Son budget de détention a également triplé pour faire passer à 100 000 le nombre de lits. Tout ceci dans le but de réaliser la plus grande expulsion de l'histoire américaine promise par Trump pendant la campagne de 2024. Il a parlé de 10 millions ou 13 millions de personnes entrées illégalement sur le territoire américain. Cela veut dire 4 % de la population américaine à expulser. C'est évidemment très compliqué. L'objectif d'un million d'expulsions par année, annoncé par l'idéologue anti-immigration et chef de cabinet adjoint Stephen Miller, s'est vite révélé irréaliste. Il y a donc une pression énorme pour augmenter la cadence. Mais où donc trouver les immigrants en situation irrégulière? Près des lieux de travail, des associations, des centres communautaires, des écoles, des dispensaires? C'est ainsi qu'on voit depuis 6 mois ces escouades d'agents encagoulés faire des raids, débarquer de véhicules non identifiés dans plusieurs grandes villes américaines. Ces agents masqués lourdement armés débarquent donc pour interpeller des gens au hasard, les arrêter et éventuellement les expulser. Et ce déploiement a été précédé en décembre d'insultes de Donald Trump qui a traité de poubelles les Somaliens au Minnesota, dont certains ont été impliqués dans les fraudes au gouvernement. Cela s'appelle préparer le terrain, cela s'appelle mettre de l'huile, puis mettre le feu. Et maintenant, une femme de 37 ans est morte. Il s'agit de Renée Nicole Good. Apparemment, elle était là pour créer de l'obstruction aux interventions de l'ICE et elle a fui une arrestation. Je dis bien apparemment, dans un corps de police bien formé, ça n'appelle pas une mise à mort. Je dois préciser que Yves Boisvert ne mentionne pas le nom de la victime. On l'a mentionné dans les médias électroniques et aussi, je l'ai lu dans le Journal de Montréal, il s'agirait de Renée Nicole Good, 37 ans. Le tennis de table pour déjouer l'Alzheimer et le Parkinson avec Yvan Deslauriers.
Oui, c'est un article qui a été publié par Kevin Breton le 14 décembre 2025, l'année dernière, évidemment, sur le site de Radio-Canada. Et il nous dit que la pratique du tennis de table serait une voie prometteuse pour ralentir les effets de certaines maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer et le Parkinson. Il existerait un tel engouement que des championnats du monde sont même organisés annuellement depuis 2023 et c'est un Québécois qui a remporté la plus récente édition dans le volet Alzheimer.
Ah oui!
Il s'appelle David Morin, M-A-U-R-I-N. Il jouait au tennis de table quand il était enfant, comme probablement plusieurs d'entre nous en a fait. Il a repris la raquette après avoir reçu son diagnostic sous les encouragements d'un ami qui pratiquait le sport. Il y a vite trouvé un bienfait thérapeutique. Il dit « ça me fait vraiment du bien. Je suis certain que ça m'aide beaucoup. » Et sa fille, qui s'appelle Juliette, est tout aussi convaincue. Elle dit, il y a l'aspect social, car il prend énormément de plaisir aux entraînements. Et on a le sentiment, et ça semble être de plus en plus démontré par les études, que ça le stimule. On remarque que c'est plus facile pour lui de trouver les mots quand il est dans l'action, quand il fait du sport. C'est particulièrement vrai avec le tennis de table, mais même simplement en marchant, on voit une différence. Selon elle, c'est une amie de ma mère qui a découvert l'existence de ce tournoi. Alors, le premier soir, on a regardé ça et tout de suite, papa a dit « on y va ». Après une première expérience aux Mondiaux en 2024 en France, David Morin s'est envolé pour ceux à Helsingborg, en Suède, fin novembre. Le volet Alzheimer de la compétition est moins développé que celui pour le Parkinson, avec 12 concurrents. Le vainqueur brandit néanmoins fièrement sa médaille lors de l'entrevue, et on le voit sur une photo, il y a un très, très grand sourire. Selon sa fille, toujours Juliette, il dit « il l'amène partout, sa médaille. L'autre fois, il l'a sorti de sa poche à l'épicerie. » souligne-t-elle, le sourire aux lèvres. Peut-être qu'il voulait payer avec aussi, on ne sait pas.
Je pense pas.
Ils étaient deux du Canada à la compétition. Il y avait une dame qui s'appelle Pascale Koenig, qui a représenté le pays dans l'une des catégories réservées aux personnes atteintes de Parkinson, un volet auquel sont inscrits près de 200 participants. Son diagnostic remonte à 11 ans, et c'est en 2020 qu'elle a décidé de reprendre le sport. Elle disait « Je jouais quand j'étais enfant, Puis j'ai arrêté à l'adolescence. Maintenant, c'est 2 fois par semaine pour chaque fois des séances de 3 heures. C'est très intense, mais aussi 3 heures de plaisir. Et continue en disant, c'est extrêmement valorisant de voir les progrès qu'on peut faire, les bénéfices sur la concentration, la coordination, les mouvements, les déplacements. C'est vraiment un grand stimulant. Le tennis de table, c'est quand même un sport de haute précision. Donc, ça devient un défi pour les gens qui souffrent du Parkinson. Elle nous dit toujours, Mme Koenig, il y a une lenteur de réaction. Les commandes ne sont pas bien entre le cerveau et les jambes ou les bras. Il y a autant de maladies de Parkinson que de personnes atteintes. C'est différent pour chacun. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est ce délai entre l'observation et la transmission du mouvement. Lorsque l'enchaînement est parfait et se traduit en un coup gagnant, la satisfaction est encore plus grande. Pardon. Elle nous dit, quand mon adversaire fait un service, lire le geste, la raquette et préparer ma réponse, c'est difficile, donne-t-elle un exemple. Mais c'est extraordinaire quand le mouvement est réalisé de façon très détendue. C'est vraiment une sensation plaisante. L'aspect social, comme on l'a remarqué pour le Alzheimer, à grande ou à petite échelle, est aussi un facteur positif. Elle nous dit encore, avec la maladie de Parkinson, on a tendance à se replier. Là, ça pousse à l'ouverture. C'est extraordinaire de voir des Parkinsoniens, c'est le nom de groupe qu'elle donne aux gens qui vivent avec le Parkinson, les Parkinsoniens réunis, être combatifs, avoir la détermination de gagner chaque point, c'est très beau. La famille Morin a remarqué la même chose pour l'Alzheimer. On s'est beaucoup lié d'amitié avec une équipe grecque dans notre catégorie. Ils sont super sympathiques et l'entraîneur est très investi. Cette année, ils étaient 6 participants Alzheimer. C'est inspirant, c'est une belle expérience et on aimerait faire connaître ça à plus de Canadiens, souligne Juliette Morin, qui est la fille de M. Morin, dont j'oublie, de David Morin. Les 2 athlètes ont aussi profité de l'appui des fédérations nationales. La Fédération canadienne a remis une bourse pour couvrir les déplacements et a fourni des uniformes. La Fédération québécoise de tennis de table leur a rendu disponibles les services d'un instructeur pour un entraînement. Les championnats du monde s'accompagnent aussi d'une série de conférences entre les matchs pour présenter les plus récentes avancées scientifiques sur les 2 maladies. Le mois dernier, là, on était en décembre quand l'article est paru,
au
mois de novembre. Le mois dernier, des chercheurs ont d'ailleurs publié dans Acta Psychologica, une revue systématique qui examine les effets du tennis de table sur le vieillissement cérébral. L'article conclut que cette pratique pourrait aider à améliorer certaines fonctions motrices et cognitives chez les personnes atteintes de maladies neurodégénératives comme le Parkinson et l'Alzheimer. Alors, tenez-vous là pour dire, préparez vos billets d'avion, la prochaine édition du tournoi aura lieu en Chine, la Mecque du tennis de table. D'ailleurs, historiquement, je pense que les États-Unis, à l'époque du président Nixon, avaient réétabli des liens diplomatiques avec la Chine en jouant au tennis de table en Chine, si je me souviens bien. Alors, et toujours dans l'article, il y a des références. Il y a une référence à un article qui s'appelle « Alzheimer, où en sommes-nous? » Et il y a une vidéo aussi, il y a un lien vers une vidéo où Jean-René Dufort démystifie les secrets du tennis de table. C'est une vidéo de 2024.
Merci.
Alors, c'est vraiment surprenant de penser que un spa. Quand on va sur YouTube, on voit parfois des séquences de tennis de table avec des athlètes extraordinaires qui font des échanges incroyables. Mais de penser que le tennis de table pourrait être un élément intéressant pour ralentir l'Alzheimer, le Parkinson, ça, j'étais bien loin de penser ça. Et cet article semble nous amener des évidences pour le contraire, donc d'encourager. En fait, autant dans cet article-là que dans bien d'autres que je vous ai lus dans le passé, l'idée, c'est de faire de l'exercice,
oui.
C'est de bouger, c'est de rencontrer des gens.
Alors, remettons-nous au ping-pong?
Oui, c'est ça.
Ça donne envie, en tout cas, même si on n'est pas aux prises ou atteint d'Alzheimer ou de Parkinson. Ça peut être un jeu très agréable.
L'idée, c'est de se lever, c'est de marcher, c'est d'aller faire des... c'est de frapper une balle, c'est de redevenir un petit peu l'enfant qu'on a déjà été, peut-être.
Retrouver l'enfant en soi. Merci, Yvan. Vous ne l'avez pas perdu, vous, en tout cas, votre enfant.
Non, j'essaie de le garder pas mal.
Merci. Le Coyote va arborer ses habits symphoniques demain ainsi que le 4 mars, le vendredi 9 janvier avec l'Orchestre symphonique de Drummondville, qu'on appelle aussi l'OSD, à la Maison symphonique de Montréal et le 4 mars avec l'Orchestre symphonique de Québec, l'OSQ. Au Grand Théâtre de Québec, les musiciens seront sous la direction de Julien Proux, qui mettra en lumière le talent de Benoît Pinette, auteur, compositeur, interprète à l'écriture sensible. L'artiste et arrangeur Gabriel Desjardins s'occupe quant à lui de transposer la musique originale en version symphonique, magnifiant la voix unique du chanteur. Vous avez compris que Benoît Pinette, c'est aussi Tire le Coyote. Et la soprano Élisabeth Saint-Gelais, artiste lyrique autochtone, joindra sa voix à celle de Tire le Coyote pour quelques chansons. Avis aux intéressés, il reste encore quelques billets. Et c'est deux chances, hein. Demain à Montréal, à la Maison symphonique, et le 4 mars au Grand Théâtre de Québec. Et Tire le Coyote va aussi poursuivre sa tournée Dynastie par la suite à Waterloo le 30 janvier, La Chine, Rimouski, Gaspé, New Richmond, Montmagny, Valmorin, Mont-Tremblant, Salaberry de Valleyfield. Tirelecoyote.com pour avoir toutes les dates et toutes les informations. Et il va écouter une de ses plus belles chansons au retour.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Mon grand navire, je te nomme PDG de mon avenir. Pour mieux saisir ton noyau et ses fruits, j'habillerai ton cœur d'un bikini. Quand l'amour s'en vaincra, il faut faire du bruit. Je crains que ma chaîne sort pour tailler mots que je veux t'offrir. Je crains que ma chaîne sort pour gonfler les mots, de notre empire. Mmh. son sourire d'éternité. J'ai un coffre fort à ton effigie, t'es le trésor national de ma patrie. Quand l'amour s'emballe, il faut faire du bruit. Je craque ma chainsaw pour tailler les mots que je veux t'offrir. Je craque ma chainsaw pour gonfler les cours, oh, de notre empire.
Chainsaw, une chanson de Tire le Coyote.
La bienveillance aurait des pouvoirs insoupçonnés et Monique nous en dit plus là-dessus.
Oui, alors c'est un article rédigé par Raphaël de Rome, donc dans l'édition la plus récente de Québec Science, soit celle de janvier-février 2027. Alors, comment allez-vous en cette nouvelle année? Avez-vous toujours foi en l'espèce humaine? Avec les guerres qui font rage, on a parfois de la difficulté à voir du positif. Et pourtant, l'une des caractéristiques distinctives des êtres humains, c'est bien leur bienveillance envers les autres. Par exemple, qu'il s'agisse de saluer la caissière à l'épicerie, de tenir la porte ouverte à quelqu'un, d'aider un ami à déménager ou à déneiger, de consulter une collègue, de consoler une collègue, de donner du sang, de faire un don à un organisme de charité. La plupart d'entre nous agissent régulièrement au bénéfice d'autrui, que cela leur profite ou non. Et même si plusieurs formes d'entraide existent chez les animaux, l'être humain aide ses semblables plus souvent, dans plus de situations, avec plus d'individus différents et de manière plus flexible que les autres espèces, nous indique Kristen Dornfield, qui est professeure de psychologie à l'Université Concordia. Les psychologues, bien sûr, se sont emparés de la question, notamment avec la naissance de la psychologie positive il y a une vingtaine d'années, alors que la psychologie classique est d'abord axée sur la détresse psychologique ou les troubles mentaux. La psychologie positive, elle, considère que la santé mentale ne se résume pas à l'absence de maladies ou de troubles. Ce courant, donc, de la psychologie positive cherche plutôt à découvrir les forces des individus, ce qui leur permet d'être heureux et de s'épanouir pleinement. Or, il semble justement que faire preuve de bienveillance, de générosité, aider ou réconforter les autres, tout ça contribue à notre bien-être, à la qualité de nos relations et à notre santé psychologique. Parfois, même plus qu'on pourrait l'imaginer. Cette évolution qui aurait fait de nous des animaux aussi doués pour la bienveillance, c'est l'évolution en fait qui aurait fait de nous des animaux aussi doués pour la bienveillance. Notre espèce a évolué pour trouver les actes de générosité gratifiants à court terme parce qu'ils facilitent les liens sociaux à long terme. Un des principaux moyens pour créer et faciliter les liens sociaux, c'est ce que les psychologues appellent les comportements pro-sociaux, les gestes qu'on fait pour le bien d'autrui. Depuis 10 ans, plusieurs études arrivent au même constat. Ceux et celles qui dépensent leur argent pour les autres, en offrant des cadeaux à leurs proches ou en faisant des dons de charité, par exemple, rapportent des niveaux plus élevés de bien-être. Mais si la corrélation entre générosité et bien-être est claire, il est plus difficile de confirmer s'il y a une relation de cause à effet. Est-ce que donner rend les gens heureux ou est-ce plutôt que les personnes heureuses sont plus enclines à donner? Il y a même une troisième possibilité, peut-être que les gens qui donnent sont plus riches et que c'est leur richesse et non le don qui les rend heureux. Pour démêler tout ça, il faut il faut bien sûr effectuer des expériences, nous explique Lara Aknin, qui est professeure de psychologie sociale à l'Université Simon Fraser. Avec son équipe du Helping and Happiness Lab, elle a mené plusieurs études dans lesquelles des volontaires reçoivent quelques dollars. Dans le premier groupe, ils doivent dépenser l'argent pour se gâter eux-mêmes et dans le deuxième groupe, pour gâter quelqu'un d'autre. Mais chaque fois, ce sont les membres du groupe généreux qui se sentent plus heureux après l'expérience. Et une somme relativement modeste suffit à générer des émotions positives. Pour témoigner de l'attention et de l'intérêt que l'on porte à quelqu'un, pas besoin de lui offrir une voiture sport, un simple café suffit, nous dit Lara Aknin. Le phénomène semble généralisé. On a mené l'expérience dans des pays relativement riches et d'autres moins riches. On a étudié des enfants de moins de 2 ans avec des collations plutôt que de l'argent et même d'anciens délinquants. Et chaque fois, on a obtenu des résultats similaires. On peut dire qu'il s'agit d'une conclusion assez solide et généralisable. Mais pourquoi certaines personnes sont-elles généreuses alors que d'autres sont hostiles, avares ou manipulatrices? Ben, la réponse est que c'est en partie une question de personnalité. Il y a différentes façons de mesurer la personnalité. L'un des modèles les plus connus est le Big Five, qui regroupe 5 grandes composantes. 1. L'ouverture d'esprit. 2. La conscienciosité, c'est le fait d'être consciencieux. 3. L'extraversion. 4. Agréabilité. Et 5. Finalement, la stabilité émotionnelle. Certaines de ces dimensions permettent en quelque sorte d'évaluer la bienveillance des gens. Mais il existe un autre modèle, c'est le test Hexaco, H-E-X-A-C-O. C'est un test de personnalité. Si vous allez sur le site d'Hexaco, vous pouvez faire gratuitement ce test-là. Et il reprend les 5 catégories et en ajoute une 6e, l'humilité. Alors, les gens qui obtiennent des scores élevés sur l'échelle d'humilité sont intègres et justes. Ils ne veulent pas être manipulateurs ou malhonnêtes avec autrui et sont peu soucieux d'obtenir richesse et statut social. Autrement dit, ils ne pensent pas mériter le traitement particulier par rapport aux autres. L'humilité est un indicateur très fiable du comportement pro-social. Il semblerait que la plupart des gens sont très généreux envers leurs proches, explique Lara Aknin. Mais à mesure qu'on s'éloigne de ce cercle, la générosité chute de manière brutale. Par ailleurs, ce n'est pas le cas des altruistes extrêmes. Eux, ils affichent un niveau de générosité presque constant, comme s'ils disaient « tout le monde mérite la même bienveillance, pas seulement les gens que je connais et que j'aime ». Pourrait-on amener des gens ordinaires à élargir leur réseau de bienveillance auprès d'autres personnes que leurs proches? On l'ignore encore. Et au travail? Ben, il semblerait que les milieux de travail gagneraient à prendre la bienveillance au sérieux. Est-ce que la bienveillance pourrait être un levier de performance? Dans les environnements où la bienveillance est la norme, on observe des niveaux élevés de sécurité psychologique. Les gens collaborent naturellement, partagent les informations au bon moment et les projets se réalisent de manière plus efficace. Les employés sont moins épuisés, tombent moins souvent en arrêt de travail et choisissent de rester en poste. La bienveillance n'est donc pas un luxe ou un sacrifice, mais un investissement. Au Québec, la bienveillance gagne des adeptes. Depuis 2021, la loi oblige les employeurs à se doter d'un plan de prévention qui tient compte des facteurs de risque psychosociaux afin de protéger la santé psychologique du personnel. Et leur responsabilité en la matière ne se limite pas à punir la violence ou le harcèlement. Il est question de favoriser la reconnaissance du personnel, la justice dans l'organisation, de traiter le personnel avec respect, dignité et politesse, de lui fournir le temps, les outils et les ressources nécessaires au travail. La bienveillance permet de créer du lien et de reconstruire la cohésion sociale dans nos communautés. La bonne nouvelle, Hélène, c'est que tout le monde peut développer sa bienveillance. Semble-t-il que c'est comme un muscle. Plus on s'entraîne, plus on devient doué. Alors, à l'entraînement, à la bienveillance.
Tell me where the wind is blowing, 'cause that's where the music's going. You are my big dark blue and I wanna swim all around you. You are the sweetest melody I've never sung. I feel like I know you, but you're just a ghost to me. And when I sit beside your shadow, somehow it comforts me. You are the sweetest melody I've ever sung. Sweetest melody I've never sung. That fits in your arms as much. And when I try to fill it up, the hole gets bigger every time. You are the sweetest melody I've ever sung. You are the sweetest melody I've ever sung. You are my sweetest melody I've ever sung. Conta, conta, mira, 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 esta melodía que es el abismo dentro de mí, el abismo dentro de mí.
Patrick Watson et sa chanson « Mélodie noire ».
Et c'est le quart d'heure des brèves, des moyennes, des courtes et des longues. Alors, Yvan, une longue brève, vous parlez de bénévolat auprès des personnes non-voyantes.
Oui, je me sens visé.
Et vous devez le sentir. De... Vous avez raison aussi.
Oui, c'est tiré de l'infolettre de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain du 8 janvier, c'est comme c'est aujourd'hui ça, 2026. Je parle pour moi particulièrement, quand on avance en âge, on perd de la masse musculaire. Alors c'est important de faire de la musculation et c'est étonnant comment ça fait du bien. Je peux en témoigner, j'en ai fait beaucoup dans les deux dernières années. Et ça donne des résultats étonnants. Alors, dans l'infolettre, on fait un appel à des bénévoles amateurs de gym et de musculation. Ça dit « Partagez votre passion, motivez un membre et progressez ensemble ». Vous êtes amateur de gym ou de musculation et souhaitez donner un sens à vos entraînements? Rejoignez notre nouveau réseau de bénévoles d'accompagnement sportif et contribuer à la forme physique d'un membre tout en optimisant la vôtre. En tant que bénévole, vous ne sacrifiez pas votre propre entraînement. Les temps de repos entre vos séries sont mis à profit pour accompagner un membre sans impact sur votre progression personnelle. Ce modèle favorise la motivation réciproque, l'entraide et le dépassement de soi. Ensemble, vous partagez conseils, encouragements et réussites. Alors, vous êtes membre et vous désirez vous entraîner en salle, ce nouveau projet est pour vous. Après quelques visites, vous vous sentirez vite en terrain familier. Vous aurez accès à de nombreux exercices simples et efficaces adaptés à tous les niveaux. C'est l'occasion idéale pour maintenir et développer votre masse musculaire. Et l'entraînement régulier contribue à améliorer et préserver votre santé cardiovasculaire. À ça, j'ajouterais personnellement que ça augmente aussi votre niveau d'interaction sociale. Et on l'a vu tantôt pour le ping-pong, pour le tennis de table. C'est un des éléments importants qui avait été noté, que le fait de pouvoir faire des interactions avec d'autres personnes pouvait améliorer certaines situations. Alors, par exemple, les gyms BuzzFit facilitent l'accompagnement bénévole en proposant le forfait Buzz avec accès gratuit pour un invité ou accompagnateur. Vous pouvez ainsi venir vous entraîner et accompagner un membre dans l'une des nombreuses succursales, que ce soit à Saint-Léonard, à Villeray, Montréal-Nord, l'Acadie, La Salle, Dollard-des-Ormeaux, Kirkland, Brossard et même Greenfield Park. Profitez d'une ambiance inclusive et d'installations modernes pour atteindre vos objectifs. Alors, vous pouvez communiquer avec l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain et signifier votre intérêt. C'est pas écrit dans l'infolettre, mais je suppose à ce moment-là qu'on va vous jumeler avec une personne non-voyante et un gymnase. Et à partir de là, vous allez être encadré par un entraîneur. Et si vous en voulez plus, vous pouvez même acheter les services d'un entraîneur privé. Donc, pardon, c'est vraiment un exercice, c'est un type d'exercice important pour maintenir la musculation, important pour maintenir des liens interpersonnels avec d'autres gens qui bénéficient de votre soutien comme bénévole pour pouvoir elles-mêmes faire de l'exercice, même si elles sont malvoyantes. Alors, ça me semble être une proposition gagnante.
Mm-hmm. Je demandais, l'entraînement physique et le conditionnement physique, est-ce que c'est la même chose?
Dans mon esprit, oui.
OK, merci.
Dans mon esprit, ça veut dire sortir de chez soi.
Mm-hmm. Et faire en sorte qu'on se sente mieux dans la tête et dans le corps.
Exactement.
Une des 10 découvertes de l'année de Québec Science. On reste dans Québec Science avec vous, Monique.
Oui, exactement. Ben, c'est une nouvelle édition que j'ai scrutée, vous devinez. Alors, il faut savoir, Hélène, que c'est la 31e année que Québec Science réunit un jury pour choisir les 10 découvertes de l'année, bien sûr, du Québec. Alors, j'en ai retenu une. Alors, il s'agit de la création d'un parachute en papier et ça a été fait par une équipe de Polytechnique Montréal. Alors, je vous lis l'avis du jury. Cette approche simple, inspirée d'un art japonais, est vraiment ingénieuse. À la clé, des parachutes légers, recyclables ou même biodégradables et facilement largables par drone. Alors, les prototypes sont de simples disques de papier ou de plastique très minces, parsemés de nombreuses petites fentes. Les modèles varient en taille et en couleur, mais partagent le même schéma de découpe réalisé au laser. Lorsqu'on les soulève, lorsque la feuille se déploie naturellement, c'est en forme de cloche inversée. Cette technique s'inspire du kirigami, comme je disais, un art japonais, qui consiste à découper un morceau de papier pour lui donner une nouvelle forme en trois dimensions. Quand une feuille de papier circulaire tombe en chute libre, elle a tendance à se replier sur elle-même. Mais si on y ajoute des trous selon un motif précis, bien on change complètement la façon dont elle se déforme. La feuille ne virevolte plus dans l'air comme une crêpe, mais elle plane de manière stable tout en ralentissant considérablement. Alors, le parachute Kirigami pourrait un jour servir à livrer avec précision de petites charges dans des zones isolées, comme du matériel médical, des denrées alimentaires, voire des colis commerciaux. Alors, on a très hâte de voir ces beaux parachutes en papier dans les airs de nos différentes régions.
Impressionnant. Je me souviens, enfin, on faisait des bateaux en papier.
Oui, des avions aussi.
Oui, des avions qu'on lançait.
Mais ça,
dans,
c'est moins bon. Ça
dans les classes.
Moins bien selon le pliage.
Oui, les enseignants, les enseignantes n'aimaient pas trop ça. Surtout quand on lançait des avions dans la classe. Bon, on continue avec vous, cher Yvan.
Toujours avec l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain. Ça se passe dans deux jours, le 10 janvier, à midi. Ça commence à 9h45 et ça se termine à 12h30. Et puis, je ne vous ai pas dit qu'est-ce que c'était. Hein. C'est d'aller visiter Montréal, ville souterraine.
Ah oui.
Alors, à une époque où c'est un peu difficile de marcher dans les rues de Montréal, quoique là, je pense que la glace va fondre. Là, on attend du temps plus doux. Mais attendez de voir ce qui se cache en dessous. Il s'agit de découvrir la célèbre ville souterraine de Montréal qui s'étire sous le cœur de la métropole et relie stations de métro et galeries marchandes sur plus de 33 kilomètres. Voilà un endroit parfait pour se protéger du froid et d'éviter d'annuler notre activité en cas de mauvais temps. Le Montréal intérieur, ville souterraine, est le plus vaste réseau piétonnier au monde. Alors, ce sont les tours Kaléidoscope qui proposent cette visite axée sur l'histoire du réseau, l'art public et l'architecture. Donc, vous communiquez avec l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain pour avoir les informations et pour réserver votre place.
Oui, une façon fascinante et passionnante de visiter sa ville ou visiter la ville de Montréal autrement et au chaud à l'abri.
Peu importe la température qu'il va faire samedi.
Monique?
Oui. Oui.
Allez-y donc.
Avec ma brève ou la capsule?
Ah, OK, oui. Bien, les deux, on peut commencer
on peut.
Avec
alors,
les...
Est-ce
que je vous laissais aller, étant donné que je ne savais pas trop si vous aviez écrit la phrase « On adore se débarrasser des tâches faciles ». Là, je me disais, est-ce que c'est tâches ou c'est tâches?
Non, c'est des tâches. Okay. J'ai oublié l'accent circonflexe.
Non, vous l'aviez, mais je me dis peut-être que...
Oui, en fait, c'est que on peut se demander d'abord, est-ce qu'on aime faire des listes? Et il semblerait que faire des listes, oui, mais on va faire d'abord les tâches faciles. Un courriel rapide, un achat vite fait, c'est très satisfaisant parce qu'on raye vite sur notre liste, au point que même quand rien ne presse, on fait passer les petites tâches devant les travaux plus urgents ou plus importants. Mais cette précrastination, comme disent les auteurs, a ses limites. Leur étude montre qu'elle s'arrête dès que l'effort demande pour une tâche dépasse l'envie de la faire. Alors, vive les petites listes avec des tâches faciles, quoi.
Oui, on entend souvent ça, là. Ça, c'est coché.
Oui. OK, c'est fait. Yeah.
Oui. Mais il ne faut pas que la vie soit comme ça, hein. Ça, c'est fait. Je connaissais quelqu'un qui faisait le tour du monde. OK, ça, ce pays-là est fait, on le coche.
Oui.
Là, tu dis, il me semble qu'on ne fait pas les choses nécessairement pour se débarrasser. En tout cas, pas de tout.
Exactement.
Et Monique, il reste encore du temps pour une capsule linguistique.
Oui.
Est-ce qu'on peut faire des anglicismes dans les onomatopées?
Bon, on rappelle, Hélène, que les onomatopées, ce sont des mots qui représentent des sons.
Ouais.
Je vous donne des exemples. Crac, boum, achoum. Mais étonnamment, il est possible, oui, de faire des anglicismes même dans la représentation des sons.
Ah oui.
Par exemple, en anglais, l'interjection qui exprime la douleur, c'est ouch.
Ouch.
O-U-C-H. Mais en français...
O-U-C-H. O-U-C-H. Nous autres, on prononce ouch. Ou aïe.
Oui, ouch. Voilà. En français, on devrait dire aïe ou ouille.
Et au Québec, on dit aïe.
Aouille, peut-être.
Chez nous, on dit aïe, comme dans la chanson de
Dauphine.
On parle une par-dessus l'autre. Aïe, ça fait mal à l'oreille de l'auditeur.
Exactement.
Je pensais à la chanson d'Offenbach, Aïe, tu me fais mal à mon cœur d'animal. Mais oui, est-ce qu'il y a d'autres exemples? C'est
ben oui, alors les anglophones vont utiliser le mot « phew » pour exprimer, alors P-H-E-W, pour exprimer le contexte de soulagement ou de dégoût. Ben, en français, on a recours aux interjections, « ouf » et « pois ». Mais l'influence de l'anglais sur les onomatopées se fait sentir partout dans la francophonie et, dans certains cas, c'est la représentation anglaise d'un son qui a fini par l'emporter. Un exemple, pour illustrer le bruit d'une sonnerie, ben, l'onomatopée anglaise « dring » a pris le dessus. Sur quelle expression?
Drelin, drelin.
Oui!
Alors, la cloche a sonné, je dois vous dire, pas adieu, mais à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Merci beaucoup, Monique Kerouac et Yvan Deslauriers.
Au plaisir, Hélène.
Vous pouvez vous écouter au quotidien avec Hélène Denis.
Et on joint au bout du fil Dominique Tremblay. Bonne année, Dominique.
Bonne année à vous, Hélène. Est-ce que vous avez passé des belles vacances?
Ah oui, vraiment, ça fait du bien. Et vous?
Très bien, merci. C'était très plaisant et très reposant.
Super. Est-ce que vous avez défait vos décorations de Noël?
Oui, c'est les enfants qui s'en sont occupés plus tôt. Puis là, Noël est fini, puis on passe au mois de janvier.
Alors, allons-y donc avec vos sujets. Parlez-nous des équipes canadiennes de paraski de fond qui sont en Europe pour participer à des compétitions.
Oui, je ne sais pas si vous avez regardé aux nouvelles hier. Il y a eu beaucoup de tempêtes de neige en France, en Hollande. Les équipes de parabiathlon et de paraski de fond sont présentement en Allemagne. Et eux aussi, ils ne seront pas en manque de neige, ce qui est très bien parce qu'ils vont skier là, pour une bonne partie du mois de janvier. Ils sont tout d'abord dans le sud-ouest de l'Allemagne pour des compétitions de parabiathlon. L'équipe de paraski de fond qui va participer la semaine prochaine à une autre étape de la Coupe du monde, toujours en Allemagne. Et puis, toutes les deux équipes de parabiathlon et de ski de fond vont ensuite se déplacer en Pologne pour qui ce sera une nouvelle étape de la Coupe du monde.
Dominique, donc, le parabiathlon, c'est quoi exactement?
Le parabiathlon, c'est un mélange de ski de fond. Donc, ça demande beaucoup, là, un bon cardio pour faire ce sport-là.
Ça doit.
Et mélanger avec du tir à la carabine, qui est un peu l'opposé là, de l'exercice du ski de fond. Donc, ça prend des athlètes qui sont capables de rester concentrés, même si le cœur bat fort après quelques kilomètres de ski de fond. C'est très intéressant. Et les Canadiens sont quand même très bons dans cette discipline-là. Il y avait une compétition avant Noël à Kenmore, en Alberta, où le Canada avait remporté une vingtaine de médailles en soi en ski de fond et en parabiathlon. Donc, on s'attend encore des bons résultats pour l'équipe canadienne. Des athlètes comme Mark Arendt, Nathalie Wilkie en parabiathlon. Il y a aussi Brittany Hudak et une Québécoise, Lynn-Marie Bilodeau, qui vont, eux, se concentrer sur le ski de fond. Et c'est une bonne pratique en vue de la préparation pour les Jeux paralympiques d'hiver de Milano-Cortina, qui va avoir lieu au mois de mars. C'est un bon moment pour préparer, tester les équipements, la stratégie, la façon de passer beaucoup de temps là, sur la neige et s'entraîner. Donc, c'est une belle expérience pour toutes ces athlètes.
Et en ce moment, on n'est pas obligé de fabriquer de la neige puisqu'elle tombe du ciel.
Non, oui, c'est ça. Donc, c'est une bonne nouvelle. Les conditions, quand c'est de la neige qui vient du ciel, là, c'est toujours un petit peu mieux pour des compétitions de ski de fond.
Et on reste dans le ski de fond, une histoire de famille.
Ben oui, je veux vous parler aujourd'hui de Xavier McKeever. McKeever, ça fait partie de la légende. Xavier est âgé de 22 ans. Il a obtenu il y a quelques semaines sa qualification pour les Jeux olympiques, mais le ski de fond, ça fait partie de son ADN, de son histoire. Il y a des skis, je pense qu'il a appris à faire du ski avant d'apprendre à marcher. Sa mère, Mylène Thériault, a été participé à quelques Jeux olympiques. Son frère, Robin McKeever, qui a été entraîneur de l'équipe canadienne de paraski de fond et aussi un Olympien. Mais ce qui est important, c'est son oncle, Brian McKeever, qui est probablement le Canadien le plus médaillé des sports d'hiver aux Jeux paralympiques. Il s'est illustré là, pendant plusieurs années. Il a gagné 20 médailles au total aux Jeux paralympiques. Wow. Donc, 16 médailles d'or aux Paralympiques. Donc, Xavier a disons, le bon portrait pour exceller ce qu'ils font. C'est un des jeunes qui a connu le plus de succès au niveau junior. Et les Jeux olympiques de Milano-Cortina vont être sa première expérience aux Jeux olympiques. Et il est probablement un des athlètes les plus jeunes et qu'on espère qu'il va peut-être faire aussi bien qu'Alex Harvey, qui a représenté le Canada pendant plusieurs années.
Beaucoup de pression, ça?
Oui, de la pression, mais il est habitué là, de faire du ski de fond. Je pense qu'il est capable d'absorber cette pression-là.
Et pour terminer, Dominique, vous nous parlez d'Élodie Tessier qui sera intronisée au Temple de la Renommée.
Oui, bien c'est ça. Élodie Tessier n'a pas pris sa retraite. Elle pratique toujours le basketball en fauteuil roulant. Mais son équipe canadienne de 3 contre 3 qui a remporté la médaille d'or lors du premier championnat du monde sera intronisée ce printemps au Temple de la renommée du basketball en fauteuil roulant canadien. Et Élodie Tessier s'est vraiment illustrée lors de ce tournoi-là. Elle a été nommée sur l'équipe d'étoiles dans sa catégorie, une reconnaissance individuelle qui souligne son impact sur le jeu et sa contribution à cette victoire. C'était la première fois que la division 3 contre 3 faisait partie d'un championnat du monde. Peut-être que ça fera partie des prochains Jeux paralympiques. La prochaine fois, ça risque d'être pour les Jeux de Brisbane en 2032. D'ici là, en 2026, pour Élodie, elle devrait faire partie de l'équipe féminine qui va participer au championnat du monde en septembre à Ottawa.
Alors, ça s'appelle le Temple de la renommée au basketball en fauteuil roulant?
Du Canada, oui.
Du Canada. Merci beaucoup, Dominique, pour toutes ces informations. Puis on se retrouve, j'espère, bien la semaine prochaine.
Avec plaisir. Bonne semaine.
Au
revoir.
Aussi.
Dans le bois. cabane dans les rues de neige, je fais dans le bois les jours de gel dans les bois. Les outardes sont arrivés, les rigoles dégringolent dans le bois. La sève coule dans les arbres, c'est le temps de cocher les érables, les bourgons qui a dépéri, les veluets, les partris, les patates à ramasser, la pile de bois complète, le cœur des signes jusqu'à sa maison, puis les étoiles sont. Et les étoiles sont claires à soir.
Edith Butler, sa chanson « Dans le bois ».
Oui, on serait bien dans le bois. Chronique Actualité internationale avec François Larochelle, ancien diplomate canadien. Bonjour, M. Larochelle.
Bonjour, Mme Denis.
On peut dire que 2026, qui n'a que 8 jours, commence sur les chapeaux de roue suite à l'opération militaire américaine et à la capture du président Nicolas Maduro, le président du Venezuela, en fin de semaine dernière. Ça s'est passé à Caracas, au Venezuela.
Oui, cette opération de l'armée américaine dans la nuit du 2 au 3 janvier a en effet fait commencer l'année avec fracas. Mais Nicolas Maduro n'avait pas aidé sa cause. En se maintenant par tous les moyens au pouvoir, y compris par la terreur, après avoir manifestement perdu l'élection présidentielle de 2024, il s'était dépouillé de ce qui lui restait de légitimité populaire. À l'origine d'une vague migratoire qui a touché l'ensemble du continent américain, son bilan catastrophique à la tête d'un pays riche en hydrocarbures, mais appauvri par l'incompétence, la violence et la corruption, plaidait depuis longtemps pour son départ. Mais cela ne justifiait pas cette opération des cow-boys américains totalement illégale. Après le, qu'on pourrait dire, kidnapping de Maduro, les Vénézuéliens ont appris que Washington entendait en plus diriger leur pays sans leur demander leur avis et pour une période indéterminée. Les intérêts des États-Unis tels que Donald Trump les conçoit l'emportent sur la volonté populaire vénézuélienne, la souveraineté du pays et le souci de faire renaître une démocratie. Du moins pour un avenir proche, si on peut se fier aux déclarations de Trump et de ses sbires. Car l'important pour Trump, ce sont les compagnies de pétrole américaines. Avec cette opération, c'est le retour à un impérialisme de prédation.
Un impérialisme de prédation. Et au Venezuela, quelle est la réaction?
Bon, au début, ce fut évidemment la stupeur. Et maintenant, on dit qu'au moins une centaine de personnes seraient mortes lors de l'attaque. Des civils, des membres des forces de sécurité et dont notamment des Cubains.
C'est le New York Times qui rapportait ça.
Oui, c'est ça. Des scènes de liesse de la diaspora vénézuélienne se sont produites un peu partout dans le monde, y compris à Montréal. Mais au Venezuela, la population reste prudente ou elle a tout simplement peur,
ouais.
Car elle ne sait pas trop ce qui va se passer, comme nous d'ailleurs. Car si Maduro a été neutralisé, le reste du régime, lui, est en place et la répression aussi.
Depuis lundi, c'est l'ancienne vice-présidente Delcy Rodriguez qui est la présidente par intérim.
Oui. Au lendemain de l'intervention contre Maduro, son ton était à la résistance. Mais après des menaces de Trump et de son secrétaire d'État Marco Rubio, son ton s'est modéré. Elle a parlé de relations respectueuses entre son pays et les États-Unis et de travailler conjointement pour un agenda de coopération. Franchement, à ce stade, on ne sait pas trop ce que fera le régime de Caracas. Il se dit en parfait contrôle de la situation, mais les Américains, eux, disent qu'ils dirigent le pays à partir de Washington. C'est pas simple, tout ça.
Non. Mais qui est cette Delcy Rodriguez?
Bon, c'est une fidèle parmi les fidèles du régime de Maduro. Elle est la fille d'un guérillero marxiste. Elle a grandi rapidement les échelons politiques, d'abord sous la présidence d'Hugo Chavez, puis sous celle de Maduro. Maduro, d'ailleurs, l'avait nommée vice-présidente en juin 2018. Delcy Rodriguez a elle-même été sanctionnée tant par l'Union européenne que par les États-Unis, car elle est accusée d'avoir participé à la détérioration de la démocratie dans son pays. Et comme vous l'avez mentionné, elle a effectivement pris ses fonctions là, lundi 5 janvier.
Tout récemment.
Ouais.
Pendant des mois, la pression exercée sur le Venezuela était justifiée par les États-Unis comme une guerre contre le narcotrafic. Une autre priorité s'impose maintenant, c'est l'accès au pétrole de ce pays d'Amérique latine qui est assis sur les plus grandes réserves d'or noir du monde.
Dans l'immédiat, les exportations de pétrole vénézuélien ne devraient pas reprendre substantiellement tant que les sanctions américaines resteront en vigueur, ce qui est encore le cas d'ailleurs. Mais Trump vient d'annoncer que le Venezuela allait livrer du pétrole aux États-Unis pour être revendu sur le marché et que c'est lui qui allait gérer tout ça. Long terme, il faudra des années et des sommes colossales pour faire revenir la production vénézuélienne à son niveau maximal. Celle-ci s'est littéralement effondrée au cours des deux dernières décennies. Le Venezuela produisait plus de 3 millions de barils par jour au début des années 2000. Il en produit aujourd'hui à peine 900 000, moins de 1 % de l'offre mondiale. Pour remettre tout cela sur les rails, on estime qu'il faudrait y investir 100 milliards de dollars.
Juste ça.
La conjoncture qui règne présentement sur les marchés pétroliers n'y est cependant pas favorable. L'offre est largement excédentaire et les prix évoluent près de leur plus bas niveau depuis 5 ans. Une équation d'autant plus complexe que le pétrole du Venezuela est très cher à produire. C'est comme nos sables bitumineux en Alberta. De plus, il n'y a pas de stabilité financière et politique au Venezuela, comme on le constate, et la sécurité sécuritaire pourrait aussi se détériorer rapidement.
Si on vous suit bien, le droit international et des organisations comme l'ONU, déjà amoindries, vont sortir encore plus abîmées de cet événement, de cet épisode.
C'est sûr. Depuis des années, cet ordre-là, qui est issu de la Deuxième Guerre mondiale, continue de s'émietter dans un paysage géopolitique remodelé par quelques brutes dominantes. Pour les dirigeants russes et chinois, ce qui vient de se dérouler, c'est du bonbon idéologique, malgré quelques désavantages immédiats. La Chine et la Russie peuvent se réjouir dans l'affirmation concrète par Trump du droit aux sphères d'influence et à la chasse gardée des empires. C'est bon pour la guerre en Ukraine pour Poutine et des menaces à l'égard de Taïwan pour la Chine. Mais ces pays quand même perdent avec le Venezuela un allié et un client.
Ah, alors, c'est pas fini.
Malheureusement,
c'est loin
non.
d'être fini.
Parce que baignant dans sa folie impérialiste, Donald Trump a réaffirmé son souhait de voir le Groenland maintenant passer sous la coupe américaine, une priorité de sécurité nationale pour les États-Unis, selon lui. Il a aussi menacé la Colombie et le Mexique.
Ce début d'année est donc déstabilisant pour un monde qui pourrait se découper en sphères d'influence dans lesquelles la loi du plus fort supplante le respect du droit international.
Absolument, mais il y a un autre élément qu'il faut considérer et c'est la politique intérieure américaine. Trump paraît affaibli à l'approche du scrutin de mi-mandat de novembre prochain, car les républicains pourraient bien perdre le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat. Avec sa philosophie MAGA, Donald Trump avait promis d'en terminer avec les guerres sans fin. Mais depuis son retour à la Maison-Blanche, il s'implique dans de nombreuses négociations de paix, tout en bombardant un peu partout sur la planète. Le déclenchement de l'opération Venezuela va peut-être avoir un impact négatif sur sa base électorale. Parce que plusieurs facteurs s'additionnent aujourd'hui contre Trump, qui est d'ailleurs au plus bas dans les sondages, avec le coût de la vie qui augmente et l'affaire Epstein qui revient le hanter régulièrement. Il y a aussi la question des tarifs qui est présentement devant la Cour suprême et une décision devrait venir dans les prochains jours ou prochaines semaines. Si l'inflation continue de sévir, c'est bien davantage elle qui risque d'affaiblir le score des républicains que l'aventurisme latino-américain de la Maison-Blanche. À noter que dans une proportion de 72 % les Américains affichent leurs craintes face à une trop grande implication des États-Unis au Venezuela, selon un sondage Ipsos Reuters mené au début de cette semaine. À peine un tiers des répondants approuvent la capture du dictateur par l'armée américaine. car cette intervention pourrait avoir des conséquences désastreuses, comme lors des récentes interventions américaines en Afghanistan, en Irak et en Libye, qui ont toutes été des échecs coûteux. Il y a de fortes chances que les Américains se retrouvent dans une situation qu'on pourrait qualifier du droit dans l'engrenage. Du doigt dans l'engrenage, mais le droit aussi dans l'engrenage. Il est malheureusement beaucoup trop tôt, ou heureusement trop tôt, pour savoir ce qui se passera dans l'avenir, mais personnellement, j'hésite entre ce que Trump ou que Trump recule dans sa nouvelle approche prédatrice, ou que ce sera une fuite en avant qui se terminera mal pour nous tous. Parce que beaucoup d'historiens présentement font un lien avec ce que l'on voit au plan mondial et les prémices des deux dernières guerres mondiales. En tous les cas, pour terminer, ceux qui s'intéressent à la politique internationale vont être comblés au cours des prochains mois.
Façon de parler, oui.
Et on n'est pas prêt de s'ennuyer. En espérant, bien sûr, qu'on ne voit pas les troupes américaines défiler sur la rue Sainte-Catherine en 2026.
Oui, mauvais rêve. Hein? C'est le défilé de la Coupe Stanley qu'on peut voir sur la rue Sainte-Catherine.
Rêvons. Il y en a qui sentent déjà la coupe, là.
Ouais. Bonne année 2026 malgré tout, M. Larochelle.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Soul to fill.
quelque chose d'envoûtant avec Rufus Wainwright, et ça, c'était sa chanson « Going to a Town ».
Encore trop de bois dans le fromage, c'est un texte qui a attiré mon attention, écrit par Stéphanie Bérubé. Les emballages de fromage déjà râpés sont fort pratiques, mais afin d'éviter que les morceaux de fromage ne collent ensemble, les fabricants ajoutent de la cellulose, un ingrédient issu du bois qui empêche l'agglutination indésirable. La pratique est courante et permise. Toutefois, selon des tests faits par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, l'ACIA, A-C-I-A, le taux de conformité pour le fromage râpé n'atteint que 55 % au pays. Les tests faits par l'agence voulaient précisément détecter l'utilisation excessive de cellulose, car ce n'est pas d'hier que l'on s'inquiète d'une trop grande utilisation de cet ingrédient par les fabricants. La pratique consistant à ajouter de la cellulose en excès comme agent de remplissage est frauduleuse et entraîne une perte financière pour les consommateurs qui paient l'excès de cellulose au prix du fromage, indique l'Agence fédérale dans son plus récent rapport annuel sur la fraude alimentaire, qui couvre la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Le fromage râpé obtient la pire note de conformité de tous les aliments. L'ACIA mène des tests ciblés et fait des activités de surveillance afin de prévenir et déceler la fraude alimentaire. Des enquêteurs vont dans les commerces, mais aussi parfois chez les importateurs et transformateurs. Ils y prennent des échantillons d'aliments sensibles, car plusieurs produits sont reconnus pour être altérés plus souvent que les autres. Dans son programme de surveillance du marché, l'agence est concentrée sur l'eau de noix de coco, la viande fraîche, les épices, l'huile de tournesol et le thé. Pour ces cinq catégories, 323 échantillons pour l'ensemble du pays sont passés sous la loupe des gens de l'agence. L'eau de coco obtient une mauvaise note. Un échantillon sur cinq était problématique pour un taux de conformité de 79 %. A contrario, tous les échantillons de viande et d'huile de tournesol étaient conformes, alors que le thé obtient un score de 99 %. Les épices faciles à altérer se sont révélées plus problématiques. 16 % des échantillons n'étaient pas conformes. Il faut toutefois noter que la quantité de produits testés varie grandement d'une catégorie à l'autre, avec seulement 19 huiles de tournesol qui sont passées sous la loupe contre 101 échantillons d'épices. L'agence a fait des études plus poussées pour les épices. On a vérifié dans certains échantillons de curcuma s'il y avait du colorant artificiel et la génomique a été utilisée pour s'assurer que des échantillons de safran n'avaient pas été trafiqués avec des adultérants connus. Alors, si vous faites de la pizza en fin de semaine, là, râpez vous-même votre fromage. C'est la conclusion. Ici Hélène Denis, au plaisir.